Merci de rester fidèle à la radio du Monde. RFI, il est 1h en temps universel, 3h à Paris.
Mathis Limano.
Au sommaire de votre journal, le Cameroun et son président Paul Biya. L'homme de 91 ans n'est plus apparu dernièrement. Des rumeurs sur sa mort circulent, rumeurs démenties par les autorités, vous l'entendrez. L'actualité du Monde, c'est aussi Milton. L'ouragan, peut-être le pire depuis un siècle, se dirige vers la Floride. Les habitants de l'État américain sont appelés à évacuer au plus vite. Il doit toucher terre entre mercredi et jeudi. Et puis l'un des fils d'Oussama Ben Laden interdit de séjour en France, annonce du ministre de l'Intérieur. Au Cameroun, la présidence et le gouvernement démentent les rumeurs sur la mort de Paul Biya. Yaoundé a officiellement réagi par communiqué mardi soir, alors que les rumeurs sur l'état de santé du chef de l'État s'accumulent. Paul Biya, 91 ans, était absent dernièrement lors de plusieurs événements internationaux d'envergure. Mardi matin, c'est un média basé aux États-Unis qui affirmait que le dirigeant camerounais était décédé. Mais selon les autorités, il va bien, Sidi Yansané.
Après des semaines de silence, les autorités camerounaises ont finalement décidé de mettre fin aux spéculations sur la mort de Paul Biya. Par communiqué, le porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, parle de fantasmes et de pure imagination et invite les Camerounais à ne point se laisser distraire par des manœuvres de déstabilisation orchestrées par des individus pernicieux. Le ministre du Travail, Grégoire Owona, estime que les auteurs de la rumeur, je cite, « doivent payer le prix fort ».
La justice, le droit, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort.
Pour sa part, le cabinet de la présidence condamne fermement les rumeurs et souligne l'excellent état de santé du chef de l'État qui, je cite, « travaille et va qu'à ses occupations à Genève ». Bientôt âgé de 92 ans, la santé de Paul Biya interroge, suite à ses absences remarquées à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie où il était pourtant annoncé, sa dernière apparition officielle remonte à début septembre au sommet Chine-Afrique de Pékin. Dans sa déclaration hier, le gouvernement a annoncé que le dirigeant camerounais rejoindra le pays dans les tout prochains jours.
Les explications de Sidi Yansané. Au Kenya, le vice-président sous le coup d'une procédure de destitution. Une décision historique alors que Rigathi Gachagua est en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec le président William Ruto. Ce mardi, une majorité de députés kenyans ont voté pour la destitution du vice-président, elle doit désormais être soumise au Sénat. Au Proche-Orient maintenant, les menaces de Benjamin Netanyahou. Dans une nouvelle allocution télévisée, le Premier ministre israélien a appelé les Libanais à sauver leur pays en le libérant du Hezbollah, menaçant en cas contraire les Libanais de connaître, je cite, des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza. Les frappes sur le Liban se poursuivent. L'Agence nationale libanaise a fait état mardi soir d'une série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. Au sol, une 4e division y a été déployée. On apprend également qu'un tunnel du Hezbollah long de 25 mètres débouchant sur le territoire israélien a été démantelé. Les pays du monde qui s'inquiètent pour leurs ressortissants au Liban. Mardi, un avion envoyé par la France a ramené 50 de ses citoyens vulnérables vivant au Liban. Pendant ce temps, le ministre de la Défense Yoav Gallant a reporté une visite officielle à Washington, repoussant ainsi une discussion avec son homologue américain et une possible trêve à venir. Les États-Unis, justement, on s'y rend. Un ouragan qualifié d'historique fonce droit sur la mégalopole de Tampa, en Floride. Un ouragan extrêmement dangereux. Les autorités multiplient les appels à évacuer. 7 millions de personnes sont concernées. RFI Miami, David Thompson.
La côte ouest de Floride se prépare au choc d'un ouragan historique. Les météorologues sont unanimes. Milton, c'est presque du jamais vu et cet ouragan fonce droit sur la mégalopole de Tampa et ses 3 millions d'habitants. Sur CNN hier soir, la maire implorait ses administrés de quitter la ville au plus vite avec des mots très directs. Ceux qui ne respectent pas l'ordre d'évacuer, prévient Jane Castor, vont tout simplement mourir. Un appel repris par le président des États-Unis Joe Biden depuis la Maison Blanche.
C'est peut-être le pire ouragan du siècle. J'appelle tout le monde qui se trouverait sur la trajectoire de l'ouragan à écouter les consignes des autorités locales et à évacuer dès maintenant. Vous auriez déjà dû le faire, je n'exagère pas. C'est une question de vie ou de mort.
Et les habitants ne se font pas prier pour partir. Ils fuient en pas en masse. Un immense embouteillage d'une cinquantaine de kilomètres s'est formé à la sortie nord de la ville. L'impact est prévu pour mercredi avec des vents dépassant les 200 km/h et surtout une montée des eaux de plus de 4 mètres en plein cœur de cette mégalopole. Le scénario du pire pour la Floride, tout juste deux semaines après le passage d'un autre ouragan, Helene, qui a laissé plus de 230 morts. Dans son sillage. David Thompson, Miami RFI.
RFI Pékin, il est 9h05. Les autorités chinoises vont imposer, dès ce vendredi, des mesures anti-dumping contre les eaux de vie importées de l'Union européenne. Des droits de douane de 35% en moyenne en réponse à la surtaxe sur les voitures électriques chinoises décidée par Bruxelles. L'UE compte contester devant l'Organisation mondiale du commerce les mesures de rétorsion de Pékin. Le cognac représente l'écrasante majorité des importations d'eau de vie européenne en Chine. Frustration et incompréhension de la filière française, selon Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération des exportateurs des vins et spiritueux français, interrogé par Agnieszka Kumor.
Depuis 9 mois, nous nous débattons dans un conflit qui n'a strictement rien à voir avec nos entreprises. Nous avons suivi toutes les différentes étapes de la procédure pour marquer notre bonne foi. Tout cela n'a mené à rien. On met en œuvre un dispositif de caution, c'est-à-dire que les entreprises doivent sécuriser les montants de ces droits. Et ça, ça nous paraît être un coup de canif, si j'ose dire, par rapport à la situation antérieure où il avait été annoncé assez officiellement que ces mesures provisoires ne seraient pas mise en œuvre. Quand vous êtes un petit producteur d'Armagnac, un petit producteur de cognac, bien souvent, la Chine représente une part tout à fait significative de votre chiffre d'affaires à l'export. Pour beaucoup de ces entreprises, ces droits sont susceptibles de leur porter un coût extrêmement difficile à supporter.
La Chine reste le deuxième marché à l'exportation des spiritueux français après les États-Unis, un marché estimé à 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires. En Ukraine, la ville de Kharkiv visée ce mardi par l'armée russe. La frappe s'est abattue près d'une zone résidentielle. Elle a fait 2 morts et plus de 30 blessés selon les autorités régionales. Lundi soir, une frappe russe sur le port d'Odessa a touché un navire marchand. Un Ukrainien est mort, 5 étrangers ont été blessés. Dans ce contexte, la Russie continue de grignoter du terrain sur le front Est, notamment dans l'oblast de Donetsk. Les forces de Moscou ont annoncé avoir pris 2 nouvelles localités au sud de Pokrovsk. La Russie, dont la monnaie, le rouble, a atteint mardi son niveau le plus faible depuis 1 an. En cause, le ralentissement de l'économie dû à l'absence d'investissements étrangers. Également un taux d'inflation élevé qui s'explique par l'envolée des dépenses publiques pour soutenir la guerre en Ukraine. L'actualité française à présent, regain de tension en Martinique après la mobilisation contre la vie chère en septembre. 4 gendarmes ont été légèrement blessés par balle la nuit dernière sur l'île française des Caraïbes. Des personnes ont été interpellées en train de dévaliser un magasin près de Fort-de-France, d'autres tentant d'incendier une station-service. Lui est désormais persona non grata sur le territoire français. Omar Bin Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé sur le réseau social X avoir pris une interdiction administrative de territoire à son encontre. L'homme, installé en France depuis 2018, avait déjà quitté le pays après une mesure d'éloignement en 2023, Amélie Beaucourt.
Ce sont des propos sur les réseaux sociaux qui ont déclenché l'affaire l'année dernière. La préfecture de l'Orne, en Normandie, là où résidait légalement Omar Bin Laden depuis 2018, signale des contenus relevant de l'apologie du terrorisme et de la glorification d'Al-Qaïda, organisation terroriste fondée par Oussama Ben Laden, son père. Une enquête est ouverte, le principal intéressé nie être l'auteur des propos, mais l'administration française lui reproche en tout cas de ne pas les avoir supprimés ou condamnés. Considérant que sa présence pose un risque pour l'ordre public et la sécurité nationale, la préfecture décide en octobre 2023 de ne pas renouveler son titre de séjour et de le notifier d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 2 ans. Omar Bin Laden quitte la France de lui-même à la même période, mais dépose un recours. La semaine dernière, le tribunal administratif confirme la décision de la préfecture. Son éloignement est donc maintenu et renforcé ce 8 octobre par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a prononcé une interdiction administrative de territoire, l'une des mesures d'éloignement qui est de son ressort. Légalement, Omar Bin Laden peut demander le retrait de cette interdiction après un délai d'1 an.
Amélie Beaucourt du service France de RFI. Et puis on referme ce journal avec cette question. Les médecins français sont-ils en sécurité? En 2023, l'Observatoire de l'Ordre des médecins a recensé près de 1600 violences verbales ou physiques à leur encontre, soit une hausse de 27% en 1 an, s'alarme l'Ordre des médecins. RFI 3h10 à Paris.